14e numéro de Comedy News Weekly Podcast. C'est l'avant-dernier numéro avant la trêve de Noël parce qu'un des deux animateurs a envie de rentrer dans sa famille au Canada.
Devinez lequel.
On ne dira pas qui. Et le 15e numéro sera enregistré ce mardi à 18h au donc Kings of Comedy Club à XL avec un invité spécial. Et si vous voulez venir, c'est gratuit. C'est une soirée en deux temps. À 20h30, la finale du tournoi Next Prince of Comedy, la 3e édition. Et c'est déjà sold out. Mais voilà. On vient d'annoncer le truc officiellement donc au Kings of Comedy Club. Donc, les places sont disponibles. Il s'agit d'envoyer un mail à info@kocc.be pour pouvoir être présent pour l'enregistrement du podcast. Salut, Anthony Mirelli.
Salut, Dan.
Comment ça va?
Nickel.
As-tu regardé pas mal de trucs dans le monde de la comédie cette semaine? Car moi, oui!
Ben oui, je suis un peu obligé.
Ben oui, c'est ça.
Sinon, on se regarde devant des micros.
Ben, ça peut être intéressant, mais c'est un autre type de podcast. J'ai peut-être commencé avec un... J'ai enfin regardé le special de Bill Cosby.
Moi, je ne l'ai pas vu encore.
Et pendant les 10 premières minutes, tu te demandes un peu ce qui se passe parce qu'il installe son style extrêmement lent. Puis après ça, c'est... Si t'es pas fan de Bill Cosby, tu le deviendras pas. Mais si t'es fan, tu trouves que c'est un génie.
Ouais, je me doute.
Et ce qui est le plus fort, et c'est juste pour ça que j'en parle, je voulais revenir là-dessus deux minutes, c'est... Tu sais, mettons, quand tu veux commencer à faire de la musique, ben, tu joues plein de notes puis tu chantes non-stop. Et il y avait Keith Richards, donc des Rolling Stones, mm-hmm. qui avait dit « Si les joueurs de rock font autant de notes de nos jours, c'est parce qu'ils ont pas été capables de trouver la bonne. » Elton John disait je compose un morceau, puis après ça, j'enlève des éléments après. C'est plus facile de faire opaque, puis après ça, d'enlever. Et c'est ça qui m'a frappé dans le truc de Bill Cosby. Je dis, mais d'après moi, si tu calcules, il doit avoir 50% de silence. Mais sérieusement, il doit avoir 50% de silence. Et tu dis, waouh.
Ouais, mais il le construit. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement bien amené. Après, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais...
Ah non, mais c'est brillant, c'est au contraire. Ouais, ouais, c'est, je dis que c'est, il faut avoir déjà une sacrée paire de couilles pour faire du stand-up. Lui, c'est du sit-down pour le coup, parce qu'il est assis. Et faire 50% de silence, c'est... Et arriver à ce que ce ne soit pas des... C'est pas des temps morts. Ce ne sont pas des temps morts. Ce sont des moments de tension. Parce
des mini-suspense.
Exactement. Et juste pour ça, je trouvais que ça valait vraiment la peine d'être souligné. Donc, Far From Finished. Ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais maintenant que je l'ai enfin vu. Au trois quarts, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin encore, mais c'est vraiment une super leçon et son histoire, ses histoires, c'est toujours le mariage des enfants, donc ça, il les traîne, mais voilà, juste pour analyser les silences,
ouais, il faut que je le voie. Par contre, j'ai revu pour la deuxième fois le special de Sarah Silverman,
oui.
Et c'est mon préféré de l'année, c'est
ouais.
Hurler de rire, m'a hurlé de rire, je te jure, mais vraiment gorge déployée, j'ai rigolé comme un dingue. Téléphone qui sonne.
Ben ouais, c'est pas très bien pro tout ça. Voilà, je rappellerai plus tard.
Ouais, non, et c'est vraiment drôle. Et il y a des vannes qui sont magiques, quoi. C'est vraiment même encore plus vulgaire que du Louis C.K. Pas pour faire vulgaire, parce que bon, elle a toujours été comme ça, mais il y a des trucs qui sont. Et elle passe un peu du coq à l'âne comme ça, sans faire de transition. C'est extrêmement bizarre.
Est-ce que tu dirais que le fait que mon téléphone ait sonné dans le milieu de ta phrase, ça l'a aidé ton rythme?
J'ai l'impression que je me suis endormi moi-même.
Il faut dire que tu reviens d'une projection de film.
Oui.
Et c'était quel film t'es allé voir?
12 Years a Slave.
Pas spécifiquement une comédie.
Oh là, non, non.
Donc voilà, ça t'es arrivé
je
ici.
Suis un peu, ouais, je suis tout dans le gaz, je suis tout endormi par cette claque.
Voilà,
de tourner. Voilà.
Mini parenthèse, c'est un bon film, juste tant qu'à en parler.
C'est un excellent film. Excellent.
Voilà, donc si vous pouvez suivre la vie de Mirelli. Tu sais quoi, c'était né dans les années, genre 10 ans plus tôt, probablement que ta séquence à la télé, ça pourrait être comme ça. La vie de Mirelli. Ça pourrait être pas mal. Donc, ok, donc, Sarah Silverman.
Moi,
Sarah Silverman.
ouais, non, et c'est. Franchement, c'est
à télécharge absolument.
Ouais. Elle a, je peux juste dire une vanne, j'aime pas faire ce genre de truc, toi, les gens qui ressortent des vannes, mais elle a une phrase qu'elle sort comme ça en plein milieu du spectacle qui n'a aucun lien avec ce qu'elle disait avant, et elle dit attends, comment ça va? C'est tu peux, si jamais tu vomis sur la bite de ton mec pendant que tu le suces, tu peux toujours s'en sortir si t'arrives à faire un très bon tada. Et puis elle passe à autre chose.
Non, j'avoue, c'est fort.
Mais c'est juste absolument parfait, franchement, je le conseille.
Parfait. Bon, qu'est-ce que tu as vu dans les news à proprement dit cette semaine?
Ben, j'aimerais commencer par quelques petites tweets, si ça ne te dérange pas.
De toute façon, ça me dérange, c'est pas comme si j'avais grand-chose à proposer en retour.
Ben ouais, c'est ça quoi, parce que je suis le seul avec un iPad sur la table. Toi, t'as juste ton téléphone qui sonne.
Tu la sens passer la critique.
Tout se joue dans le regard, ouais, dans la voix. Il y a encore Anthony Jeselnik qui a profité de la mort de Paul Walker, le, oui, mec de Fast and Furious, et il a mis Rest in Peace Paul Walker, The Brightest Candles Burn Up in Cars.
Oh.
Ce type, il attend que ça, je pense qu'il doit être comme ça devant son ordi, à attendre les morts.
Il est prêt, ouais. Mais quand c'est lui, Jason Lee avait aussi fait un gag au moment où, pour la première de Batman, du dernier Batman, mm-hmm, Dark Knight Rises, donc je crois, il y avait eu donc des gens qui étaient morts au Colorado, puis il avait,
ah oui, il y avait la fusillade, là, oui, ça, oui, oui.
Il avait envoyé le tweet « Harder than that, how was the movie ?» Et c'est, je savais pas, quelqu'un qui lui a dit, qui l'a un peu insulté en disant vraiment, Jason Lee, une blague de Lincoln. Et je savais pas ce que c'était, mais c'est Patrick, c'est un gars classique aux États-Unis. Tu sais, à part de ça, monsieur Lincoln, comment était la pièce de théâtre? Oui. Donc voilà. C'est du name dropping de Abraham Lincoln dans un podcast de comédie. Je pensais pas y arriver, donc j'ai vu l'occasion. Je directement. Il a fallu que j'en profite.
Il y en a un deuxième de Rob Delaney qui a retweeté BuzzFeed. BuzzFeed, c'est les listes de grosses conneries. Et c'était 15 signs you're addicted to travel. Et lui, il met numéro 3, you suck dick for a bus pass.
Ah, oh, mais lui, il fait souvent ça, retweeter un truc, et des fois il va retweeter un truc d'une compagnie, genre mettons, ouais, genre qu'est-ce qui est plus génial que genre des biscuits Oreo, et lui il va mettre un truc en disant, je sais pas, que mes parents m'aiment, enfin, il va toujours mettre des trucs comme ça, genre KFC, genre finger licking good, ouais, c'est bon sans lécher les doigts, enfin, dites monsieur KFC, j'ai léché mes doigts et c'était dégueulasse. Mais j'avoue que ça me fait fort. Et il y a des entreprises des fois qui les community managers commence à rejouer avec lui pour s'amuser,
ouais,
un peu.
Ils ont bien compris, il y en a qui sont pas cons.
Parce qu'ils savent qu'ils vont super bien paraître, quoi.
Ben ouais. Enfin, je sais pas, ça dépend en fait de la société.
Ça dépend surtout du gag. Parce que, ouais, c'était ça d'être drôle avec un humoriste. C'est ça, faire rire un humoriste, c'est comme essayer de faire jouer une porn star, quoi. C'est
pas mal.
Pas évident. Ah, il y en a envie d'autres.
J'en ai un troisième qui est pas drôle, mais c'est Marc Duplass, un des deux frères Duplass avec son frère, c'est Jay, je pense. Et il joue dans The League, okay, sur FXX. Et il a dit qu'il pense que Anchorman 2 est encore meilleur que le premier.
Et est-ce qu'il l'a vu?
C'est intéressant. Oui, oui, non, oui, il l'a vu.
Parce que sinon, j'ai ça envie de dire...
Mais sinon, je l'aurais pas relevé.
Moi aussi, je peux dire qu'Anchorman 3 va être meilleur que le deuxième, mais bon...
Mais non, mais c'est plutôt bon signe.
Oui, oui, parce qu'avec toute la hype, justement, qu'on disait autour de ce truc-là...
C'est pas fini.
Et je sais pas si t'as vu, il a aussi fait de la promo au Canada.
Ouais, il s'est incrusté dans une...
Un championnat de curling.
Ouais, voilà. Et il a fait d'autres choses aussi. Il s'est incrusté dans une station dans Dakota du Nord, je crois, un petit truc local comme ça. Il a présenté vraiment Ron Burgundy, les news.
J'avoue que d'après moi, on est à deux doigts de Ron Burgundy, lave ta bagnole, Ron Burgundy et au McDo du coin.
Attends, ici, il a fait... Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a sorti un scotch.
Ok.
Un vrai que tu peux acheter. Donc, si tu vas au Canada, tu vas pouvoir l'acheter.
Et comme je suis un imbécile, je vais probablement le faire.
Ben ouais. Ça s'appelle. C'est où? Great Odin's Raven. Raven?
Aucune idée. J'avoue que. Il doit en avoir plein le cul, honnêtement, de faire la promo, là.
Je sais pas, parce qu'il arrive quand même toujours à s'amuser un peu. Si j'étais à sa place, je préférais faire ça que des junkets dans des hôtels où on te pose 15 fois la même question.
J'avoue, le truc le plus drôle, n'empêche, que j'ai vu...
T'avoues beaucoup aujourd'hui, hein?
Ouais, mais moi,
t'as des choses à cacher. Vas-y, redémarre.
J'allais faire un gag, mais tu te dis, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire des gags qui impliquaient des caves?
Vas-y, vas-y.
Non. J'aime bien comment toi, tu dis genre à pousser devant le train comme un imbécile. Non, le truc le plus drôle, je trouve, qu'il a fait Will Ferrell, c'est qu'il avait annoncé dans un match de NBA, il avait fait l'annonce des joueurs. Et donc, il fait genre, je sais pas, à 2m14.
En personnage?
Non, en lui-même, mais genre, dire, attends, en 2m14, il nous vient de, je sais pas, Charlottetown. He still lives with his mom. Charles Dupont. Et c'est que des vagues comme ça, genre. Et Louis, sa couleur préférée, c'est le rose.
Il est trop fort, ce type.
Il y en a qui rigolaient beaucoup, beaucoup moins.
Ça devrait être saoulant d'être aimé de tout le monde, non?
Mais il y en a pas beaucoup.
À ce coin-là. Parce que lui, enfin, Will Ferrell, t'as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est absolument génial.
Il y en a qui le trouvent pas drôle, c'est normal, mais des gens qui le détestent, c'est vrai que t'entends.
C'est quand même rare, quoi.
Ce serait quoi l'équivalent d'un gars qui fait ça depuis des années et qui a pas de haters?
À part Franck Dubosc, que je vois pas trop. Il sera à l'affiche de Fiston.
Ben oui, avec Kev The Dream Adams. Mais qui, non, sérieusement, qui du côté francophone? Benoît Poulvord, peut-être?
Ouais, ouais, mais il a quand même été un peu trashé dans la presse, tu vois, le fait qu'il boive, qu'il
ouais.
Histoire de drogue, même, peu importe si c'est vrai ou faux, mais bon.
C'est vrai
même sur Wifery, on connaît pas vraiment sa vie privée.
Ouais, c'est vrai. Gad Elmaleh, il y a pas beaucoup de personnes qui disent que c'est un con. T'entends pas vraiment un courant dominant. Déjà, il y en a qui s'en foutent, mais je te dis.
Petit à petit, là, tu commences à voir en fait d'où viennent ces vannes. Et sur Twitter, s'il y a quand même beaucoup qui le traitent de pseudo Seinfeld. Bah, tu vois, la nouvelle affiche de son spectacle, Sans Tambour, c'est Seinfeld, quoi.
Ouais, sauf qu'à partir du moment où Seinfeld fait une émission avec lui, tu l'avais vu celle-là?
Ouais.
Son Comedians in Cars.
Getting Coffee.
Ouais, et Seinfeld le présente, et avant qu'il Gad Elmaleh arrive, il lui dit, en France, on dit un peu qu'il est le French Seinfeld.
En fait, ça a commencé quand il a fait la voix, il a doublé Seinfeld dans B-Movie.
Ouais.
Qui s'appelle, je ne sais plus comment en français, avec les abeilles, là.
Probablement un film d'abeilles au Québec.
Un film avec des abeilles. Et ouais, non, c'est vrai qu'il est annoncé comme le Seinfeld.
Et donc, si Seinfeld lui-même ne voit pas de problème avec ça.
C'est bien, oui, mais c'est bien d'être reconnu. C'est pas pour autant que tu dois refaire exactement la même chose. B-Movie, c'est sorti quoi? Il y a quand même bien 10 ans, ce film-là, non?
C'est de quoi Seinfeld a juste l'impression que c'est son traducteur officiel.
Ben Seinfeld, ça lui change absolument rien de lui dire « Oh, t'es le nouveau Seinfeld », voilà, c'est bien.
J'avoue, mais...
T'avoues encore, donc.
Ouais, ça fait, mais il me reste 4-5 aveux maximum.
Ok.
T'as un humoriste québécois qui s'appelle Mike Ward, j'en ai déjà parlé quelques fois, qui lui...
À chaque numéro, je pense.
Ouais, ben, c'est mon préféré au Québec. Déteste Gad Elmaleh et il le traite de « hack », donc de fraude, un peu de choses près. Et quand Gad Elmaleh a vu tester ses trucs en anglais pour le festival Juste pour rire, il avait fait un article... Il y avait un article sur lui où il disait qu'il n'avait pas fait de test. Vraiment, c'était la première fois qu'il allait tester ces vannes-là. Il ne savait pas s'il allait les refaire après. Et donc, Mike Ward s'est un peu fâché. Et en lisant l'article, je fais « Comment ça, je ne sais pas si je vais le refaire après? » Et j'ai été fouillé genre 2-3 tweets plus loin de Gad Elmaleh et il annonçait ses dates en anglais. Donc, comment la fois tu peux dire que si tu sais pas si tu vas les refaire et avoir déjà des dates de prévu?
Mais oui, il a pris un sale tournant. Les derniers spectacles, on en a déjà parlé, je pense. Le fait que tu n'as plus vraiment l'impression que si tu fais du stand-up, c'est quand même que tu as vécu des choses ou t'as observé des choses et t'en parles et après tu tournes ça de façon plus ou moins rigolote. Lui, tu as l'impression qu'il se force à inventer des situations dans lesquelles il a jamais été et c'est cette. Pire en pire, ce côté-là est vraiment accentué ces derniers spectacles. Enfin, tu dis c'est impossible que t'as vécu ça, tu vois.
À moi qu'il nous raconte encore une fois comment ça se passe avec une princesse.
Ouais, bah ouais, c'est peut-être le seul truc que t'avais dit qui.
Mais serait intéressant.
Bah ouais, je pense pas qu'il va le faire.
Ce serait génial.
Est-ce que Seinfeld l'aurait fait? Je ne pense pas.
Seinfeld, il sort maintenant avec une. Mais en même temps, il parle un peu de bonne bouffe dans son truc.
Ah oui, mais j'ai vu sa femme là, t'en avais parlé, celle qui bouffe super bien, qui écrit des livres bio, je sais pas tout quoi. Ouais.
Je sais pas si les livres sont bio, mais c'est sur la nourriture bio.
Ouais,
et je pense que.
Il faudrait qu'il éclate au soir, autour de la table.
Je crois que l'intérêt qu'il y avait dans cette conversation.
Dis-moi, j'ai déjà oublié.
Et déjà.
Je sais plus de quoi on parle, moi.
C'est parti, on disait que.
Je crois qu'on parlait d'Anchorman 2. Et du scotch. D'Anchorman 2, c'est ça, non?
Tu sais qu'est-ce que j'aimerais bien?
Vas-y, dis-moi.
Un peu de scotch. Sans ça, ça pourrait nous replacer.
Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de boire de l'eau pendant le podcast.
Ouais, c'est pas très bon. Bon, enchaîne.
Enchaîne. Ben, donc, il y avait ce truc-là. Et il y a aussi Paramount qui fait un ticket spécial comme ils avaient fait pour World War Z avec Brad Pitt.
Ah, je n'avais pas vu ça.
C'est un film qui s'appelle... un ticket qui s'appelle le Super Ticket. Sois pas gassé le cul. Mais ça coûte $33. En gros, tu vois le film 2 jours avant tout le monde. Tu reçois Wake Up Ron Burgundy en téléchargement légal. Et tu reçois Anchorman 2 en VOD une semaine avant tout le monde, avant la sortie Blu-ray.
Ah bien.
Et t'as genre 5 euros de réduction, je sais pas chez qui, mais...
Comme un con, quand t'as dit que c'est un ticket spécial, je pensais qu'il avait fait du artwork et que t'avais un beau ticket de cinéma.
Non, je pense pas. Je crois que c'est juste un bête mail que t'imprimes.
C'est tout de suite un peu moins artsy, mais ça peut être intéressant d'aller le voir. Et ils ont reculé de 2 jours aussi la sortie officielle. Ouais. Normalement, aux États-Unis, c'est le vendredi. Et donc, ça va être le vendredi juste avant Noël. Et là, ça va être le mercredi juste avant Noël.
Mais chez nous, ça sort pas cette année-ci, hein, je crois.
J'en ai pas la moindre idée.
Je pense que ça sort en janvier.
Mais de toute façon, je m'en fous, j'étais au Canada.
Oh merde, enfoiré. Et du coup, dans l'article, il disait encore une fois: Tone it down, Paramount, before you spoil the movie's best jokes.
Ouais.
Et ouais, c'est un peu la prochaine étape, je crois.
C'est le danger parce qu'on a déjà au moins une vingtaine de vannes qui sont passées. Donc tu dis...
Et aujourd'hui, il devait faire Sport Center aussi présenté, mais ça a été annulé parce qu'apparemment, il y a un problème avec un joueur de foot, il y a un problème d'agression sexuelle ou je sais pas trop quoi.
Ouais, donc c'est tout de suite un peu moins marrant.
Ils se sont dit que ce sera pas vraiment le bon moment.
Comédie plus problème d'agression sexuelle, en général, c'est pas un bon mélange.
Et putain, j'ai une liste, mais en fait, c'est toutes des news sur lui en fait. Il y a un autre truc, c'est qu'ils essayent de mettre une chanson que lui chante dans le film qui s'appelle Dobby. Ils veulent la proposer aux Oscars pour Best Original Song. Et apparemment, ça serait valable parce que l'année passée, il y avait Ted qui avait une chanson.
Ok.
Et l'année d'avant, c'était les Muppets qui avait gagné. Donc.
Et encore moins, t'as si Ron Burgundy va chercher un Oscar. Ça, c'est quand même un giant fuck you à plein de trucs. Mais ça donnerait une raison de regarder les Oscars. D'ailleurs, est-ce que t'as entendu qui va les présenter cette année? Non. J'ai pas entendu de rumeurs toujours.
Je sais que les Césars, ce sera Cécile de France. Mais c'est jamais drôle, les Césars.
Non. Mais il essaie.
Bah,
c'était quand c'était Decaune.
Antoine Decaune essayait, ouais.
Moi, je trouve que celui qui a le mieux réussi n'empêche d'être drôle, on en a déjà parlé, c'est
Cadmerade, ouais.
Arrive, fonce, défonce le truc, se relève, annonce le gagnant, se casse.
Tu dois quand même rester toute une soirée, ça dure super longtemps. Il faut quand même assurer, je trouve.
Ouais, c'est vraiment pas fait. Le meilleur que j'avais vu, c'est dans les meilleurs, il y avait Amy Poehler avec.
Mais ça, c'est Golden Globes ou Emmy, ouais.
La deuxième année de Ricky Gervais. Mais il est pas long. Ils sont pas toujours là, très, très, très présents
ils sont
non
là
plus. Hein.
Au début, ouais. Ils reviennent un peu là. Des fois, ils reviennent et tu dis, ah ouais, c'est déjà fini. Ils reviennent, ils font ciao, ils ont un verre. Ils sont en train de boire et déjà faire la fête.
Mais je me demande à quel point c'était pas genre 4-5 présences. Pas ouais. Énormément
non.
Plus pour
bah ouais.
Ricky Gervais.
Non, parce qu'il y a tellement de gens qui doivent venir parler, présenter. Ouais. Mais pour les Oscars, moi je trouve Billy Crystal, il fait toujours le job. Qu'il fasse rire ou pas, il fait le job. Quand c'était Alec Baldwin et Steve Martin, je trouve ça toujours assez marrant. Ils arrivent toujours à faire ça mieux que tu vois, des Antoine Decaune ou de Cécile de France. Ou...
Il devrait le proposer aux États-Unis à Justin Timberlake.
Tu penses, en dansant.
Justin et Jimmy Fallon.
Comment il s'appelle Neil Patrick Harris.
Ah, mais
lui est bon, mais pour genre les. C'est quoi les Tony?
Les Tony.
C'est incroyable ce qu'il fait.
À fond.
Il danse dans tous les sens, le mec il n'arrête pas.
Il danse, il chante, il fait de la magie.
Non, il danse sur le fait qu'il n'arrête pas de danser. Enfin, c'est devenu un état de.
Ouais. Mais pour présenter les Tony. Pour arriver à rendre plus ou moins mainstream les Tony Awards, qui sont la remise de prix des comédies musicales, des trucs sur Broadway. Ouais. Et Neil Patrick Harris étant donc dans le fameux personnage dans How I Met Your Mother de Barney.
Voilà, on en a à expliquer Neil Patrick Harris.
Je sais pas, moi j'ai pas ça. T'as regardé l'épisode cette semaine?
Non, pas vu. C'est peut-être pour ça que je suis encore un peu heureux. C'est juste le film d'avant qui m'a tué, mais moins qu'un épisode de How I Met.
Ah oui, non, c'est toujours pas terrible. C'est toujours pas terrible.
Ça m'étonne pas.
C'était un flashback cette semaine.
Encore?
Ouais.
Oh, je sais qu'ils vont faire, je pense, début janvier, un épisode vu par la mère qui s'appelle How I Met. Non, attends. « Or your father met me », un machin vrai.
Ouais, parce qu'ils peuvent pas mettre « How I Met Your Father » maintenant
ouais,
qu'ils ont vendu le concert.
« Or your father met me », ouais, c'est elle qui raconte une journée ou comment elle est arrivée jusqu'au mariage, apparemment.
Ah, c'est un peu comme, regarde, il y a une expression, des fois, ils appellent ça le combat de trop. Comme Mohamed Ali quand il est montré pour le combat de trop. Et je trouve que cette saison-là, tu le regardes, tu fais vraiment comme « Oh,
mais
oh j'ai mal pour vous ».
C'est antiquimatique au possible, parce que je me suis souvenu qu'en fait, il l'a déjà demandé en mariage, la mère. Il y a déjà eu cette putain de scène complètement ridicule au-dessus du phare.
Tout à fait.
Ça spoilé comme des porcs, mais on s'en fout. Vous avez dit
tout à fait.
Et en fait, ça tombe comme un cheveu dans la soupe parce que la mère, il l'a pas encore rencontrée, mais on a déjà vu la demande en mariage.
On a déjà vu la nana, on a un peu son histoire, et on a vu la demande en mariage.
Mais voilà, mais sinon, elle est jamais là.
Donc, à moins qu'il la fourre pendant 22 minutes, man, comme series finale.
Je sais pas comment ils vont faire.
Je sais pas comment ils vont rendre ça génial, quoi.
Filmer l'accouchement, je sais pas, moi.
En fait, c'est peut-être ça le truc. Ils font plus de vannes depuis 2 saisons et demie. Et l'épisode où ils se rencontrent, ça va être vanne sur vanne sur vanne.
Non, je pense que c'est fini, là. Moi, ils ont abandonné. Il y a plus personne, je pense. Ça tourne tout seul, tu vois.
Genre, dans les bureaux, tu rentres là, genre un lundi à 14h, tu fais « Allô ?»
Il y a quel Monsieur Bay. C'est Thomas.
C'est Thomas, il y a quel... Non. Il y a quelqu'un qui a vu Jason Segel? Oh, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu. Ah, c'est pour ça. Ok, bon ben, désolé de vous avoir... Ça me dérange si on emménage ici, si on a un projet de... Les gars, il y a personne. C'est bon, on emménage.
Je crois que les acteurs démarrent eux-mêmes les caméras, font le clap avec leurs mains, tu vois.
Il y a juste un paye qui arrive, qui ouvre la porte, qui déverrouille, puis qui fait hey, « vous me remettez ça en état quand vous avez fini. Hein. »
Éteignez les lumières, parce que la dernière fois, vous avez ça allumé.
Dis, vous savez ce que c'est, ça? Sans facture d'électricité. Est-ce que c'est normal, ça? Je ne pense pas.
Quand... Et du coup, pour payer, l'autre, il est obligé de danser au Tony.
Voilà.
Tout s'explique, voilà, moi, tout.
Et on aura la boucle. Aucune manière de mieux finir ce segment-là. Donc, est-ce que tu as vu quelque chose d'autre, mon bon Anthony?
Mais je peux parler de Billy Crystal, en fait, qui va tourner un special pour HBO. C'est pas vraiment du stand-up, mais en fait, il avait fait une pièce qui s'appelle 700 Sundays. Et il l'a joué sur Broadway pendant des années. Il a même gagné un Tony, justement.
Ok.
L'enchaînement est incroyable. Et ben, du coup, il va le retourner, mais exprès pour la télé cette fois-ci. Et ce sera diffusé sur HBO fin 2014.
Donc, une comédie musicale en télé.
Je ne sais pas si c'est vraiment une comédie musicale, mais c'est apparemment des histoires. Je crois qu'il a mis sa vie en scène ou quelque chose comme ça. Et ouais, il la rejoue pour la télé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si ça a gagné à Tony, ça ne doit pas être
si mauvais.
Mauvais
de toute façon, pour moi, la vie de Billy Crystal, ça demeurera How Harry Met Sally. Moi, pour moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un biopic de Billy Crystal et de Meg Ryan.
Mais j'aime bien ce type, on le voit plus assez souvent. Et il a tout le temps la même tête, t'as pas l'impression qu'il vieillit des masses.
Lui et Michael Keaton, je trouve. C'est deux qui ont l'air cool.
Ouais. Tu penses que c'est les cheveux frisés qui font ça? Ils ont la même coupe de cheveux.
Si vous connaissez un gars avec des cheveux frisés, envoyez-nous des photos à 20 ans d'écart. Comme ça, on voit si ça vaut la peine qu'on ait tous une permanente.
Allez, regarde Julien Lepers. Bon, on dit souvent qu'il ressemble à Keaton, justement, mais il a la même tête.
Pas faux. Quoique, ils sont pas frisés, mais Pierre-Emmanuel Barré,
ouais,
a lui des cheveux aussi bouclés.
J'ai vu son spectacle, enfin, le stand-up cut.
Et a déjà l'air vieux. Donc, peut-être que c'est ça le truc. Peut-être que Billy Crystal avait l'air d'avoir 50 quand il en avait 30. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'a pas l'air vieux.
Ouais. Mais là, je suis choqué parce que je viens de me souvenir de ce truc, en fait.
De Pierre-Emmanuel Barré.
Ouais, du coup, les stand-up cut, donc c'est ouais. Les scènes sur au Comedy Club.
Tout à fait.
Kings of Comedy.
Qui passe après sur la chaîne YouTube de FFF Sketch, Fédération Française Sketch.
Ouais.
Et donc voilà, c'est trois. Il y a eu trois enregistrements différents à XL avec une série d'humoristes. Alban Ivanov est passé, Seb Melia, il y a eu Arnaud Cosson. Enfin, on en reviendra par là-dessus. Et cette fois-ci, il y avait entre autres Marine Baousson et Tariq est déjà passé aussi. Et là, Pierre-Emmanuel Barré.
T'as trouvé ça bon?
Moi, j'étais, pour être tout à fait honnête, j'ai vu que 25% parce que j'étais en train de faire des interviews.
Ouais.
Post-spectacle dans le fumoir du Comedy Club. Et moi, le moment que j'ai vu, moi, j'ai trouvé vraiment bon.
Moi, je t'avoue que le seul truc qui m'a fait rire, c'est justement quand vous êtes dans le fumoir et qu'il y a un mec qui arrive et qui comprend pas que vous êtes en train de vous interviewer.
Oh oui, il comprend pas vite, ouais.
Mais alors lui, je sais pas si le but c'est de dérouter son public ou... mais incroyable, j'ai jamais vu ça, un truc aussi lent, mou. Et je me dis, mais putain, il y a pas de vanne.
Toi, t'as pas vraiment... Et il y a un truc, j'ai regardé cette semaine le...
Je peux un peu raconter ma vie. Je regardais ça sur mon ordi et il y a ma copine qui se préparait dans l'autre salle, enfin dans la salle de bain forcément. Et de loin, elle a crié coupe ce truc insupportable.
Mais il fait une voix spéciale aussi.
Surtout, il y a beaucoup de qui sont interminables. Je trouve.
J'ai regardé, j'ai dit moi ce que j'ai vu, j'ai aimé en live, ça a super bien marché.
C'est vrai parce que ça avait l'air justement un peu froid les réactions des gens. En tout cas, dans ce que tu vois de la vidéo,
okay.
Je trouve.
C'était un de ceux qui a le mieux marché ce soir-là. Je pense que c'est lui qui a le mieux marché ce soir-là. Et il y a un détail, ça m'a frappé en regardant le best-of de Montreux. Mm-hmm. Je regardais, donc voilà, il y en a quelques-uns que j'avais déjà vus en live, dont Baptiste Le Caplain. Et en live, j'avais super fort adoré. Et quand je l'avais vu, après ça, je l'ai vu en télé, j'ai dit, ah, il y a des trucs qui... Le rythme n'est pas tout à fait pareil, tu vois. Des enchaînements super rapides en live qui passent bien parce que t'es un peu dans le moment, mm-hmm. qui en télé ont juste l'air du gars qui a pas été au bout de sa vie. Il y a deux, trois trucs. Et ça, j'étais content d'avoir d'abord vu en live et après ça en télé.
Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps en tant qu'invité. Il me fait vraiment rire, en fait.
Qui?
Le Caplain.
Le Caplain,
ouais. Parce qu'il a une spontanéité. Mais quand j'ai revu le spectacle, là, on en avait parlé.
Ouais.
Je suis passé complètement à côté. Je trouvais que c'était fort fatigant, fort...
tout le temps dans la force.
Oui, et toi, tu m'avais dit que tu l'avais vu, comme tu l'avais dit, et que tu avais bien aimé. Donc, ça, c'est vrai que.
Mais je t'incite à aller le voir en live.
En vidéo, bah oui, oui. Je me doute que ça doit bien. Sûrement, ça va me plaire, je pense, parce que j'aime bien le gars, en fait. J'ai absolument rien contre lui.
Et celui, dans le best-of que j'ai vu. Celui qui passait le mieux, je trouvais, c'était Alexis Makar. Je sais pas si t'as déjà vu Alexis Makar. Il y a une tête pour le. Il doit y avoir trois geeks dans le monde qui connaissent les deux, mais il y a un peu une tête à la Jean-Thomas Jobin.
Je connais pas.
C'est un Québécois, Jean-Thomas Jobin. Son premier spectacle à vie, son premier sketch, en tout cas, moi j'ai connu, c'était Jean-Thomas Jobin vulgarise le concept de restaurant. Et c'est juste lui qui arrivait sur scène, faisait bon, alors un restaurant, c'est un endroit, c'est un lieu. Admettons que t'as faim et que t'as ça va. Vous voulez qu'on résume peut-être depuis le début comment ça se passe? Donc il y a des murs, ça c'est plafond, sauf si t'es dehors, là, pas de plafond. Et il y a de la. T'as une carte et ça dure 5 minutes.
C'est son sketch, enfin c'est pas trop. Ah oui, oui.
C'est un sketch. Et tu fais comme. Hé, hey, le gars, tu sais, déjà t'es stressé avant de monter sur scène en général. Quand t'as des vannes. Et lui, il monte avec ça, il sait que si ça passe pas.
Il a rien d'autre.
Il y a rien, c'est aller à la guerre avec un slip, c'est tout. À moins que la personne soit allergique au slip, t'es mort. Et donc voilà, il y avait aussi un truc, un gars qui faisait rire, c'était allez, petite devinette. Qu'est-ce qui va très vite, qui est jaune et qui a quatre roues?
Je sais pas.
Une voiture, ça. Non, une balle de tennis. J'avais menti pour les quatre roues. Et ça, ben, j'ai trouvé ça huge. J'avais menti pour les quatre roues, c'est wow, punchline ultime. Incroyable.
C'est vraiment bon.
Et Alexis Makar arrive sur scène, il fait encore une fois, c'est toujours.
Ah oui, t'as pas dit, mais il te faisait penser à deux personnes, mais t'en as parlé que d'un.
Non, je dis quelqu'un connaît et Alexis Makar et Jean-Thomas Jobin, c'est assez rare. Okay. Et j'imagine, et Alexis Makar arrive sur scène, et encore une fois, ce que je vais faire ne lui rend pas justice, mais c'était plus ou moins quelque chose comme. Alors moi, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine et. C'est long. Ce qui arrive en plus, c'est que je l'aime pas. Parce qu'elle est. Je sais pas, elle est comme. Oh, tu vois, un peu genre moche qu'on appelle. Elle est. C'est, oh, je sais pas. Et. Il y a un meilleur timing, forcément, que ça pour le faire aussi. Mais ce jour-là, moi, je. Tu sais, tu penses qu'il dit un truc un peu sale pour se rattraper. C'est un truc sale. Gros, gros truc sale. Mini pause. Fait non, mais c'est parce que. Truc pire, je rigole et j'enchaîne avec complètement autre chose.
Ouais. Mais ça marche par rapport aux gens.
Lui, il a bien marché. Mais à côté de ça, tu mets genre les taloches qui grimacent et puis ça cartonne.
Par exemple, Pierre-Emmanuel Barré, je trouvais qu'il réagissait par rapport au public et que le public, justement, était assez froid, encore une fois, de ce que j'ai vu sur la vidéo. Et que lui, du coup. Il rajoutait des couches de vulgarité, de trucs un peu dégueulasses ou tu vois, offensants comme ça, exprès.
Pour aller chercher la réaction.
J'avais l'impression de ça, ouais. Qui vraiment, il cherchait à choquer le public à tout.
Ok, et si ça te choque pas, je suis obligé d'en faire une pire. Oui, et si c'était pas prévu, je sais pas trop comment le dire.
Ouais, c'était vraiment bizarre à voir parce que j'ai l'impression qu'en fait, lui se rendait compte que ça marchait pas.
Ok, bah je regarderai le truc parce que moi, ce que j'avais vu, la réaction était bonne, puis moi, j'ai trouvé ça drôle. Donc...
Bah oui, de toute façon, ça dure quoi? Je crois que la vidéo dure une vingtaine de minutes et à la fin, il y a ce fameux type, justement. Qui veut juste qu'on lui allume sa cigarette.
C'est génial. En gros, c'est ça, on fait des petites interviews avant, il y a un set, et puis on fait des interviews après dans le fumoir. Mais à la fin, il y en a qui sont un peu bourrés, quoi. Et qui captent pas qu'il y a une interview.
Bourré.
Ah ouais. Le gars qui arrive pour qu'on lui allume sa clope, je précise.
Voilà, voilà. Ah oui, j'ai une petite question.
Ouais.
Parce que j'ai vu. J'ai regardé le spectacle de Michael Gregorio.
Ouais.
Qui faisait pas non plus l'éclat total, c'est juste que le mec est absolument incroyablement doué. Ah, c'est l'imitateur.
Oh, non, mais c'est génie
voilà.
En imitation.
Et j'ai regardé aussi Max Boublil, je pense. J'arrive jamais à prononcer son nom.
Boublil.
Que j'aimais pas vraiment avant. Et puis j'ai vu Les Gamins avec Alain Chabat, et je trouve ça absolument parfait.
Oh,
et
il est bon le film.
Ouais, franchement, c'est une des meilleures comédies françaises de cette année, je trouve.
Par rapport à un bon Danny Boone.
Ouh, on est forcément en dessous. Non, mais du coup, voilà, j'ai regardé son spectacle, c'était pas exceptionnel, surtout qu'il enchaîne avec ses chansons qu'on connaît en soit. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un truc dont on n'a jamais parlé, c'est qu'il y a des fois le crowdwork, mais aussi filmer le public qui rit.
Oui.
Je voulais savoir ton sentiment par rapport à ça.
Quand j'étais plus jeune. Forcément, avec le festival Juste pour rire à Montréal, ils filment près de 250 000 shows et après ça, on en a plein toute l'année. Et il y a toujours du public qui rit, et ça m'avait jamais choqué. J'avais jamais même réfléchi à ce truc-là. Mm-hmm. Et le problème, c'est que maintenant que j'ai vu quelques captains en live et que j'ai fait moi-même quelques trucs, j'ai toujours l'impression que montrer le public qui rit, c'est pas pour montrer le public qui rit. C'est pour gommer un gag qui marche pas ou faire une transition.
Ça, je sais pas.
Et c'est ça le... Il est juste là, c'est même pas un problème, c'est juste un... C'est une fois que tu vois les coulisses, tu sais, si tu vois le marionnettiste, la marionnette a l'air moins vivante, quoi.
Ouais.
Et c'est juste... Mais j'ai juste un problème aussi, des fois, le fait, c'est que t'as pas énormément... Forcément, t'as pas 15 caméras, donc t'as pas 200 plans de coupe non plus. Et donc, si t'as le malheur d'être le moindrement bonasse, tu sais qu'on va devoir rigoler, ouais, 50 fois. Et le problème, c'est quand ils montrent la bonasse qui rigole, c'est que par définition, les jolies nanas rigolent pas beaucoup. Parce qu'une jolie nana pense toujours à une chose, de quoi a l'air ma face. Et une jolie nana s'entraîne pas à rire devant le miroir, elle s'entraîne à être belle devant le miroir. Et comme elle sait pas vraiment à quoi ressemble sa face quand elle rigole, ça l'inquiète parce qu'elle quitte sa zone de confort de « je contrôle mes muscles faciaux ». Et du coup, si elle rigole, c'est pas tant pour rigoler souvent, plus que pour essayer d'être belle ou montrer que c'est trop l'éclate ou qu'elle déconne ou qu'elle a le sens de l'humour. Et donc, du coup, tu vois, genre, une bouche apparaître, mm-hmm, avec des dents parfaites, puis il n'y a rien autour des yeux. Donc, ça fait un peu poupée Chucky, comme
mais ça. Mais il y a des spectacles où tu n'as absolument pas de gens qui rigolent dans la salle. Enfin, ils ne sont pas filmés. Donc, alors, c'est quoi le...
Je pense que c'est la même chose que des... Avant une captée de spectacle, en général, tu vois un warm-up comedian, mm-hmm, qui va venir faire une série de recommandations et ils vont prendre des plans publics. Donc, il va faire rire, il va faire applaudir, il va faire un truc comme ça. Et là, les cams prennent plein de plans publics. Et si tu le fais avant, c'est donc pour te dire si au montage, on a besoin de remettre un petit coup par-ci ou remettre un petit coup par-là, on a les backups. J'ai fait une fois un montage d'un show, assister à un monteur d'un spectacle. Et le plan public, il t'aide aussi à fond pour les transitions. Parce que, idéalement, en général, pour une bonne capta, les gens vont faire, pour un DVD, ils vont faire normalement deux. Ouais. Ils vont capter sur deux soirs ou deux shows le même jour. Et ils vont faire plus long que ce qu'ils vont garder sur le DVD. En fonction de ce qui a marché, ben, tu prends le gars lequel soir a été le mieux fait, l'action. Et si t'as besoin de couper quelque chose, si tu filmes tout le temps l'humoriste, ça va être difficile d'aller chercher un autre plan sans que ça fasse jump cut. Donc je pense que ça sert surtout pour le
montage.
Mais
ça se voit quand même moins sur des stand-up américains, non? J'ai l'impression. J'ai pas le souvenir de voir un show Louis C.K. où tu vois les gens s'éclater.
Non, mais regarde le dernier Louis C.K. qui est donc...
Mais là, la salle est tout autour de lui.
Ouais, et les cotes, au début, la réalisation des 10 premières minutes, elle est un peu serrée, je trouve.
Faudrait que je regarde. Parce que justement,
et le public change aussi, parce que c'est sur deux soirs.
Ouais.
Et, donc,
et je pensais à ça parce que Sarah Silverman, donc c'était dans la petite salle, et là t'as aucun plan de coupe, en tout cas sur le public, et ça m'a frappé justement quand j'ai revu Michael Gregorio. Mais justement, je me dis, c'est peut-être les spectacles avec un public un peu plus âgé.
Mais aussi Michael Gregorio, comment il fait pour faire ses transitions? Sarah Silverman peut toujours faire
oui, je sais, je me doute, mais je veux dire, là ça m'a fait penser à ça en voyant son spectacle. Et, et j'ai en tête aussi les spectacles de Chris Rock ou des humoristes genre black ou latino ou quoi, parce que souvent, c'est des foules très, 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 très expressives. Et là, oui, ça, limite, ça se justifie parce que tu vois comment ils sont complètement
survoltés. Parce que c'est les Def Jam, je pense, entre autres.
Ces trucs de
les Def Jam,
de
ils sautent. Vraiment, ils se lèvent debout, ils sautent, puis ils font genre.
Ouais, donc voilà, mais c'est ça que je me dis. Je sais pas, il faudrait que je fasse plus attention quand j'en reverrai parce que.
Et il y a aussi le bon vieil adage, et dans les séries télé, tu le vois beaucoup, c'est There's no comedy without reaction shot. Il n'y a pas d'humour tant que tu n'as pas eu la réaction. Et dans plein de séries, quand il y a une bonne vanne, ils ne coupent pas sur la bonne vanne. Ils coupent sur la réaction de la personne en face, la bonne vanne. On a déjà parlé avec Aziz Ansari, mm-hmm, qui se spécialise dans le...
Regarde caméra.
Exactement, sa phase de reaction shot. Et c'est peut-être pour la même chose. Man, normalement, j'aurais faire une capta dans les 6 prochains mois, donc pour mon premier spectacle. Donc, je te dis...
Ton premier spectacle? Ton nouveau spectacle?
Non, une capta pour que ça soit diffusé en télé de mon premier spectacle.
Ah, mais tu l'avais pas déjà faite?
Non.
Hey, je pensais.
Pas encore.
Ah, donc c'était une façon de nous dire que tu vas passer à la télé. T'es un peu une star.
Si j'ai besoin de le dire, c'est que je suis seulement un peu une star. Ouais.
Juste un peu.
Pas beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il y a Amy Schumer qui part en tournée. Elle s'arrête pas en fait, vu que là son film avec Joe Lapato qui a un titre et qui est officiellement lancé. Il y a son show qui revient le 1er avril, une saison 2, Inside Amy Schumer. Et il y a un tour qui s'appelle Inside Amy Schumer's Backdoor.
À l'intérieur de la porte arrière, qui est une métaphore pour, hein, disons-le,
l'anus.
L'anus.
Et donc elle va tourner dans plus de 30 villes. Et en fait, elle avait fait un jeu sur Twitter où elle a demandé aux gens de trouver un nom pour sa tournée. Et il y en a qui étaient quand même drôles, c'était Amy Schumer, I'm Coming. Il y en a un, c'était Amy Schumer, Burning Sensation Tour. Il y avait le Clitourus.
Fait aucun sens, c'est même pas bien, c'est même pas bien fait.
Moi, ça m'a fait rire.
Ouais.
Et donc voilà, ça a l'air de cartonner pour elle. Et soit dit en passant, il y a aussi Kroll Show qui revient pour une saison 2. Nick Kroll, qui est aussi dans The League sur FXX, qui revient lui le 14 janvier. Et ça, c'est sur Comedy Central. Donc, et en parlant de Comedy Central, il y a un article sur The Ivy Club, qui est le côté, la version, on va dire, culturel de The Onion, où là c'est vraiment pas des blagues, mais ils font des reviews de films, de séries, etc. Ils ont un article sur la vague des séries comiques sur, de cette année sur Comedy Central, et c'est super intéressant. Ils reviennent sur Keen Peele, sur Amy Schumer, sur Kroll justement, okay, sur Nathan For You, etc. Donc je mettrai ça sur le Tumblr.
Bah oui, parce que là t'es complètement à jour sur le Tumblr.
Ouais, j'ai un peu bossé en fait. J'ai bossé, j'avais dit, hein. Le jour même,
ah oui,
c'était en ligne, j'étais content.
T'as tout donné là.
J'étais comme un fou. Quoi d'autre? Il y a une nouvelle writer qui arrive au SNL.
Tu peux pas t'en empêcher. Hein.
Katie Rich. Non, mais en fait, je me suis dit en l'écrivant, je dis, je le mets, je le mets pas. Mais en fait, après, il y a une analyse qui est plutôt correcte. C'est la cinquième qui arrive. Elle vient de Chicago, Second City. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'ils se disent, Seth Meyers va partir pour avoir son late night. Ouais. Et il va sûrement embarquer pas mal de
writer avec.
Ah, okay. Tout de suite, voilà. Hein.
Mm-hmm.
Ça a quand même sa place.
Là, on parle de late night tout à coup.
Et donc voilà.
L'autre se réveille.
Et donc voilà, bah elle arrive et on verra ce qu'elle va faire.
Et donc, c'est une spécialiste de l'improv, si je comprends bien.
Je suppose, ouais.
Ça vient de Second City à Chicago.
On a aussi un retour sur la chaîne Jash. On en avait déjà parlé, on en parle assez souvent d'ailleurs.
La chaîne de Sarah Silverman, c'est ça?
Entre autres, et de Tim et Eric. Ils avaient lancé Tim's Cooking Tips. Je
oui.
pense qu'on avait parlé au tout début de ce podcast.
T'as
ça
fait.
S'était arrêté parce que voilà, c'était drôle d'arrêter, je suppose. Ici, ils ont lancé une nouvelle. Maintenant, c'est l'autre qui prend le devant de la, qui monte sur le devant de la scène. Ça s'appelle Dr. Warheim. Donc, c'est Eric Warheim. Et en gros, il joue un docteur et son client, enfin son patient, ce sera toujours ben, Tim.
Ok. Et qui ont toujours la même chose ou...
J'en sais rien. J'ai regardé le premier épisode, donc c'est assez malsain. Et c'est pareil, c'est exactement le même que Cooking Steve, donc c'est super bien foutu. Et il a un petit pot, genre avec je sais pas quoi. Je crois que c'est du lubrifiant parce qu'il doit lui mettre évidemment un doigt dans le cul, sinon c'est pas drôle.
Ben regarde, classique comédie.
Et pareil que Cooking Steve, il fait tourner le lubrifiant et ça fait. Tu vois, des sales bruits comme ça, et
ouais.
ça dure genre 3 minutes, et tu te dis qu'est-ce que j'ai regardé encore. Et la semaine prochaine, ils ont déjà dit que ce sera exactement pareil. Donc, Dr. Warheim sur la chaîne Jash.
Pourquoi faire des efforts, man?
Non, eux, ils ont basé leur carrière sur ça. Donc,
ils sont allés au bout de l'idée. Mais encore une fois, c'est ça que je trouve bien. On en parle souvent encore ici, mais peu importe ce que tu fais, va au bout de l'idée.
Voilà, c'est sûr que.
Ils veulent faire un truc débile et répétitif.
Plus au bout que ça, tu peux pas.
Plus au bout que ça, il n'y a rien.
C'est clair. On a des news de Louis C.K.
Oh.
La série revient en mai
ouais.
pour 13 épisodes, mais surtout il a signé un deal de dingue avec FX où en fait il peut proposer n'importe quoi à la chaîne et la chaîne le prendra genre 99%. Donc il peut proposer en tant que scénariste, réalisateur ou même les deux.
Okay.
Et alors il développe ce qu'il veut sur la chaîne.
En même temps, il serait con FX de lui dire quoi que ce soit, sauf
ouais,
oui,
ça,
monsieur CK. Ouais.
Surtout qu'apparemment, ça coûte pas des masses, lui, et qu'il fait tout dans son coin. Donc voilà, il a signé ça via sa société Pig Newton.
Ouais.
Et il restera aussi producteur exécutif sur tout ce qu'il fait sur la chaîne. Et il peut juste se barrer pour vendre ses specials à d'autres chaînes.
C'est quasiment c'est un contrat de semi-exclusivité. Hein.
Donc c'est juste, ouais, c'est surtout le contrat le plus parfait au monde, je pense.
Ouais.
Donc en fait, tu peux faire ce que tu veux, on est là.
Ça, tu peux nous proposer tout ce que tu veux, on l'achète. Puis si tu veux vendre tes spectacles à d'autres chaînes, il n'y a pas de problème.
Nickel.
Ben écoute, signe.
C'est ça quoi. Donc voilà, mais j'ai hâte de revoir la série parce que ça manque un peu quand même de.
Mais
de
c'est bien qu'il prenne du. Il a aussi pris du temps parce qu'il dit pour être sûr d'avoir encore des
lourd,
trucs à dire,
ouais,
c'est ça. Et
puis je pense que le rythme de travail, il n'est pas. Je crois qu'il expliquait, il voyait ses filles deux fois par semaine et puis le reste du temps, il restait sur son MacBook comme un taré à monter, à tout faire tout seul. Je m'étonne qu'il ait besoin d'un peu de vacances. Et puis, il y avait la tournée Oh My God aussi. Donc voilà.
Qui est passé par l'Angleterre, d'ailleurs. Il y a des amis qui sont allés le voir.
Ah ouais, ouais, juste. C'était en été, non?
Non, c'était en mars, je crois, qu'il s'est passé en Angleterre.
Ah oh, ouais, c'est possible.
Patrick, c'était terrible.
Là, ça m'étonnerait aussi que qu'on dise le contraire.
C'est forcément, c'est ça. Si tu vas voir un humoriste à Londres,
c'est que t'es fan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, Louis C.K., ça me fait pas rire?
Qu'est-ce qu'il y a autour de... Ben, c'est quelqu'un qui fait trop l'unanimité, il y a des gens qui vont le détester parce que tout le monde déteste des trucs qui font l'unanimité. En général, ça commence par... ben, à la Ron Burgundy avec Anchorman, où quand Bref était sorti, puis tout le monde postait le même truc, des gens qui disaient c'est bon, putain, ça fait 257 fois qu'on a vu le lien, on a compris, c'est bon. Et tu te finis par avoir une aversion parce que t'as l'impression qu'on est en train de te gaver de force avec certaines choses. L'avantage ici, c'est que les humoristes US, il n'y a pas grand monde qui en parle encore. Donc, d'après moi, tu demandes Louis C.K., ouais. il doit pas être connu ici.
C'est quand même un des plus connus, je trouve.
Mais tu penses vraiment...
Il y a une nouvelle vague de gens qui sont intéressés à l'humour et qui postent...
Oui, il est connu dans son domaine.
Ah, bah oui.
C'est ça, mais je veux dire, sa popularité, il doit être vachement moins connu qu'à talent égal ou à renommée égale le musicien.
Ouais. Ouais, c'est sûr, mais bon, justement, c'était une... petite pensée comme ça. Ouais. Et j'ai vu, il y a un magazine qui s'appelle SoFilm, qui est l'équivalent en cinéma de SoFoot. Qui a tweeté genre Louis C.K. a toujours raison, un truc dans le genre, et retweet Louis C.K. et c'est un faux compte de Louis C.K. évidemment.
Ok.
Et qui disait je mettrais le seul truc qui m'intéresse, c'est si Facebook lance un bouton whatever ou un machin comme ça.
Ah oui.
Et je lui remets le faux Louis C.K. a toujours raison dans ce cas-là, tu vois.
Ah ok, eux ils ont fait ça comme si c'était le... ils pensaient que
c'était vrai. Ouais. Et puis ils m'ont répondu, ils m'ont dit ah ouais c'est vrai juste, mais en même temps il a un beat sur Facebook dans son spectacle, j'ai bien rattrapé quand même. La semaine passée on avait parlé, c'est la semaine passée je pense, de What the Tuff.
Oui, tout à fait.
Qui est un concept assez inédit sur D8, que ça passe après Touche pas à mon poste. Et j'ai regardé les trois premiers épisodes.
Ouais, ça a commencé ce lundi.
Ce lundi, ouais. Et ici, ben, du coup, je vais pas voir le quatrième parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais donc, en gros, deux mecs se réveillent dans l'appartement de Elise et Moon après une fête et ils essaient de se souvenir ce qu'ils ont fait. Dans le premier épisode, ils lancent une vanne sur Brahim Asloum via téléphone. Je crois qu'il est boxeur. Un petit boxeur, ouais.
Ok. J'ai jamais entendu ce nom de ma vie.
Il fait un sport de combat, mais je pense que c'est de la boxe. Et bon voilà, il y a juste Elise et Moon qui passe, il dit alors, bande de tapettes, qu'est-ce que vous avez foutu, vous vous souvenez pas. C'est extrêmement court, du coup, je pense qu'il n'y a même pas de place pour faire des vannes en fait. Je sais pas si c'est vraiment le but non plus, mais.
C'est une expérience peut-être à ce moment-là.
Ouais, je pense, mais alors je vois pas vraiment l'intérêt. Mais à la fin de l'épisode, c'est mis écrivez la suite avec Brahim Asloum. Ce que okay. Je savais pas la semaine passée, c'est qu'en fait, eux disent quelle star forcément. On ne va pas l'avoir pour le lendemain. Et je regarde le lendemain, Brahim Asloum arrive évidemment, il est habillé en vache parce que c'était une fête déguisée. Il est habillé en costume de vache et il met des claques un peu à tout le monde. Voilà. Mais c'était mis écrit par un certain Kalex06. Et pour aller vérifier parce que je raconte pas n'importe quoi. Et je me suis dit, je vais aller voir, tu vois.
C'est pas... Il n'est pas sur Twitter lui ?
Si, si, il est Twitter. Non, mais il n'est pas connu du tout.
K-A-L-E-Y-X 0
non, non. Kalex, C-A-L-E-X-06.
Ça, je disais.
T'as dit ça?
Non, non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il n'y avait pas une lettre pareille. Oh, je pense même pas sûr que c'était le même alphabet.
Mais bon, je me dis, c'est quand même bizarre. Donc, je vais voir, le mec n'a pas d'avatar.
Ok.
Sur Twitter, c'est l'avatar de l'œuf, de base. Il s'est remis... Ouais, il a 6 followers et il suit 18 personnes et il a 12 tweets. Il s'est quand même inscrit en juillet 2012, mais son dernier tweet, c'est sur TPMP. Donc, en fait, tous ces tweets sont sur TPMP, donc D8.
Mm-hmm.
Ça, tu vois, tu as des tweets genre, qui datent de 152 jours, 152 jours, puis 26 jours à TPMP, puis 20 jours, un truc banal. Et puis, 23 heures, Brahim arrive en costume de vache, il demande où est le cowboy, ne le trouvant pas, il décide de jouer au jeu, une question, une droite. C'est quand même bizarre.
Ouais.
Puis donc, je regarde l'épisode, et puis ils disent, faites l'épisode du lendemain avec Elena Noguera. Je regarde c'est qui, et le mec s'appelle le Bourbon Kid.
Okay.
Son prénom, enfin, il se fait appeler Sylvester Stallone. Bon, j'aime bien.
T'es vraiment le digne fan de SNL, toi.
Sylvester Stallone, allez, ça va, tu l'aurais fait, t'aurais trouvé ça génial.
C'est un jeu de mots, dude.
Et alors?
Comment ça, y a la... On a fait la police du jeu de mots!
J'en entends pas les gyrophares de la police. bon, soit, le mec-là est inscrit depuis mars 2010. J'ai l'impression d'être un peu un enquêteur, tu vois.
Ah oui.
Qui a fait son enquête. Et le mec, lui, c'est encore plus flagrant. En fait, il a plus tweeté depuis 232 jours.
Ok.
Puis il se remet, tu vois, c'est mis un tweet il y a un jour, et c'est sur Brahim Asloum. C'est mis Brahim Asloum déguisé en Blanche-Neige, lance une horde de 7 nains catcheurs. Mais ça n'a pas été pris.
Ce qui, by the way, aurait complètement dû être pris.
Ben ouais, maintenant ils ont préféré l'autre. Et puis son tweet du lendemain, c'est persuadé qu'Elise Moon joue encore à cache-cache, Elena Nogara refuse de quitter son placard. Et c'est ça qui a été pris. Donc le mec il tweet plus depuis quasiment un an.
Ouais.
Il revient, il balance un machin et c'est vrai. Et puis il a retweeté We Love Cinema qui sponsorise l'émission. Et le We Love Cinema met bravo à Le Bourbon Kid dont l'idée de scénario a été inspirée. Et puis il répond à quelqu'un qui dit non, je confirme, je suis une vraie personne avec un vrai compte. Arrêtons avec les thèses conspirationnistes. Donc c'est bien comme j'avais dit, ça pue du cul à crever.
Ah oui, j'avoue.
Il n'y a personne qui fasse ça déjà, soit déjà été écrit, soit... tout a déjà été tourné, enfin c'est impossible qu'ils fassent ça comme ils disent, tourner la nuit, écrire la nuit et tourner le lendemain matin pour diffuser au soir.
Et est-ce que c'est bon?
Ben il se passe rien, donc on s'en fout en fait.
Donc ça là peut-être qu'ils le font vraiment pendant le...
Oui, mais alors pourquoi ne pas prendre vraiment des vrais tweets et des comptes qui n'ont pas l'air faux, il y en a des millions, tu vois.
Tu peux aller faire ton enquête plus loin que ça, donc il faut que tu tweets at l'émission avec le hashtag.
Avec un hashtag.
Clique sur le hashtag et tu vas voir le nombre de personnes qui proposent des trucs.
Ah mais j'ai regardé, il y en a
pas mal.
Ouais donc non, c'est ça que c'est un peu bizarre, tu vois. Deux jours d'affilée, il faudrait voir où, je vais regarder ce soir. On va pouvoir le faire comme on avait dit au Comedy Club.
Ben, surtout avec invité mystère, pour peu que ce soit quelqu'un qui sache écrire, clin d'œil, on pourra le faire à ce moment-là, à trois, et voir si on est sélectionné pour gagner, c'est quoi, c'est 1 million d'euros, c'est ça, par épisode qu'il donne?
Je pense, ouais.
À vérifier.
C'est Fortis qui sponsorise, donc...
Ah ouais, donc il y a... Pété
Ben Parima. Mais voilà un peu les news de la semaine.
Très bien tout ça.
C'était pas encore une grosse semaine, mais comme je disais, c'est la fin de l'année. Je vais juste vous conseiller quelques petits liens aussi que je mettrai sur le Tumblr. Il y a Vulture qui a fait un article qui s'appelle The History of the Ron Burgundy Press Tour.
Okay.
Où ils ont fait limite un truc chronologique qui reprend absolument tout ce qu'il a fait. C'est affolant, il y a encore même des trucs dont on n'a même pas parlé, quoi. Donc tu dis ok. Et il y a Rue 89 qui a écrit un article qui s'appelle « Un an dans l'enfer de la comédie française ». Et c'est franchement, c'est même de mauvaise foi, parce que je suis pas le premier à adorer le cinéma, enfin l'humour français, les films genre avec Kev Adams par exemple. Mais l'article est plus la mauvaise foi. Le mec n'a rien aimé. Il dit il y a 68 films qui sont sortis, c'était toutes des merdes.
Ok, ouais.
Alors que justement, il y avait encore une fois Les Gamins, il y avait quelques bons films qui s'en sont sortis. Donc voilà. C'est très intéressant.
T'as vu Guillaume Gallienne et les garçons ouais. Et Guillaume?
Ouais, c'est très très bien.
Ça a l'air vachement bien. Et ça part de son spectacle, non?
Il l'avait joué sur scène, ouais.
Ça, je trouve que ça, à l'époque, on m'avait dit beaucoup de bien. Et déjà, de voir quelqu'un qui fait tout lui-même, à chaque fois, j'ai hyper envie d'aller le voir.
Parce que dans le film, il joue sa mère, enfin, il se joue lui, adolescent, avec beaucoup de perruques. Mais franchement, ça passe très très bien. Moi, je l'avais vu à Cannes et c'est vrai que c'était un peu frais par rapport au reste des films qui sont souvent lourds. Ouais. Et c'est rare là aussi, c'est que toute la presse est unanime et même les gens qui vont le voir se disent. Ah ouais, pour une fois, les gens avaient raison, enfin, les journalistes avaient raison.
Okay,
il y a une espèce de consensus comme ça qui...
Mais au-delà, déjà, une comédie qui prend pas le pari de soit je te fais rire, soit je passe pour un imbécile, ça fait du bien aussi, ouais. Parce qu'il n'y en a pas énormément des comédies qui prennent ce pari-là. Et lui, quand je l'ai vu, c'est vraiment ça. Ça a l'air d'être, au pire, man, t'as une bonne histoire écrite correctement.
Hein. Ouais, non, mais c'est franchement... Ça me fait envie, je crois. Ça donne envie, forcément, parce que je l'ai vu, mais il faut y aller, il faut vraiment aller.
Très bien. Moi, j'ai écouté un super bon podcast, Jay Moore. Son Fake Mustache Studios a reçu, ça a été diffusé ce lundi, Patton Oswalt.
Mm-hmm.
Et Jay Moore, qui est donc un humoriste imitateur, son rôle peut-être le plus connu au cinéma, il jouait le méchant agent dans Jerry Maguire.
Ouais, et il est aussi dans une des séries que je préfère au monde qui s'appelle Action.
Oui.
Où il jouait quoi? Un producteur?
Il jouait un producteur trou de balle. Ou agent ou producteur?
Un agent, je ne sais plus son rôle exactement.
Mais il avait un vrai trou de balle.
Il y avait un épisode magique où il se foutait de la gueule des frères Wachowski qui avaient écrit Matrix, que ça venait juste de sortir. Et que c'était deux ados attardés qui écrivaient par terre. Ça a hurlé de rire cette série. Il n'y a qu'une saison, donc tu pourrais récupérer ça. C'est vraiment drôle. Et je t'ai coupé, je te laisse parler.
Non, je t'en prie, sur YouTube, on peut les voir gratuitement.
C'est
donc Action, moi c'est là que j'ai vu la moitié de la saison, je crois, gratuitement sur YouTube. Peut-être mettre le lien sur le Tumblr. Et donc il reçoit Patton Oswalt. Et ce que pas tout le monde sait, mais Jay Moore est un des co-créateurs de Last Comic Standing.
Ouais.
Comme un The Voice ou un incroyable talent, mais pour les humoristes. Et Patton Oswalt avait un peu dit qu'il
Pour lui, c'est pas bon comme programme.
Exactement, ça
fait du mal. Oui.
Et ça, et ils en ont parlé et c'était super intéressant, surtout pour les fans de comédie, ceux qui ont envie de se lancer.
Hein? C'était pas tendu?
Non, Jim Moore, il a dit, écoute, man, dis ce que tu penses, il y a rien que tu puisses dire qui va genre hurt my feelings. Et Patton Oswalt dit, je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que par rapport à ce que tel truc que j'ai vécu, je trouve que ce programme peut avoir telle conséquence, mm-hmm. mais aussi telle chose. Mais Patton Oswalt, c'est un des humoristes les plus intelligents. En fait, c'est lui qui a le plus de réflexion sur l'art de la comédie. C'est hyper intéressant quand il raconte l'importance de se planter. Et moi, je suis content d'avoir fait mes premières années alors qu'il n'y avait pas de caméra, qu'il n'y avait rien. J'ai toutes les erreurs, le fait de copier quelqu'un sans s'en rendre compte, de copier le style, des trucs comme ça. Et je suis content qu'il y ait pas, ça ne soit pas documenté aujourd'hui.
Tu m'étonnes.
Et donc, surtout, l'art de la comédie, comment y arriver, la difficulté d'y arriver, les trucs qui peuvent être drôles, les techniques. C'est vraiment un super épisode de coulisses en deux amoureux du stand-up. Jay Moore, c'est un gros fan qui continue de faire plein de dates. Tout, quand il fait des shows, à chaque fois, le show, c'est un meet and greet aussi. À la fin, c'est le...
Il est sympa, ce type-là. Hein?
En fait, il a l'air d'un faux douchebag. Parce qu'il passe un peu pour...
Dans la série Action, justement, il était vraiment parfait en douchebag, mais...
Il avait la réputation d'un douchebag dans le monde de la comédie aussi. Mais je pense qu'il est arrivé un jour, quelqu'un lui a dit...
Il n'avait pas volé des vannes.
Ouais, il s'était fait accuser de voler des vannes. Il y a eu tout un truc.
C'est avec lui et Dennis Leary aussi.
Et je pense que c'est avec... c'est comment il s'appelait? C'est dans le podcast de Joe Rogan. Ils ont parlé du fait que lui avait piqué des vannes. Je me souviens plus à qui. Mais, bah, tu sais quoi, mini parenthèse, on va parler de cette histoire-là. Un de ses potes humoristes raconte une anecdote. C'est comme ça, j'ai entendu la version de Jay Moore. Raconte une anecdote dans un café ou un truc comme ça. Et Jay Moore dit, ah, le pote humoriste, malheureusement, j'ai oublié le nom, lui dit, man... Tu devrais raconter cette anecdote-là sur scène, elle est terrible. Et on dit, ah non, je suis pas à l'aise de le faire, mais toi, fais-la. T'es sûr? Ah oui. T'es sûr, sûr? Ah oui. Et le soir, il fait l'anecdote, il killed avec l'anecdote. Il dit, t'es sûr? Non, pas de problème. Et Patrick lui a demandé plein de fois, et il l'a fait. Et à un moment donné, dans une émission de radio, l'autre a dit, ah, mais ce truc-là, c'est un truc que Jay Moore m'a piqué. Et Jay Moore, ça le faisait chier, et a essayé de dire que là, il a déjà piqué avant, je crois qu'il avait déjà eu un autre épisode de gag piqué. Et c'est ça aussi qui n'a pas aidé. Il dit, quand je suis arrivé très jeune. Voilà. Et ce qui l'a calmé, c'est un, j'ai oublié le nom, encore une fois, malheureusement, de la personne, qui lui a dit, de toute façon, Jay Moore, the eternal name on the B-list of showbiz. Puis quand je me suis rendu compte qu'effectivement, tu veux toujours être une star, mais je me dis, en fait, je suis sur la B-list, mais je fais tout ce que j'aime, je suis à l'aise, je vis bien. Et ça m'a à fond apaisé. Et depuis ce temps-là, je suis beaucoup plus calme et j'ai plus de plaisir. Et là, il y a un show sur une station de sport. Il fait une émission tous les jours. Il est animateur de sport, d'une émission de radio de sport. En plus de faire ses shows et faire son podcast, donc ça, c'est More Stories, que ça s'appelle. Mais c'est un truc qu'on peut parler, ça, les principes de vol de van. Robin Williams avait eu toute qu'une anecdote aussi autour de lui avec ça.
Il y a ça, il y a... je sais que Dennis Leary, il a piqué une vanne et ça fait un gros bordel. Je sais qu'il y a George Lopez, il l'a fait assez...
Dane Cook versus Louis C.K., il en parle dans la série Louis.
Ah oui, ça c'était un épisode assez incroyable. Et je trouve que Dane Cook, il s'est justement encore une fois ridiculisé personnellement. Même si il a eu les couilles... Enfin, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais même s'il a eu les couilles de passer à l'antenne, j'allais dire comme on dit en 1944, de passer à l'écran et jouer dans la série son propre rôle, je trouve qu'au final, ça arrangeait rien et les gens n'ont pas changé d'avis, je veux dire.
Mais de toute façon, personne ne change d'avis. Quelqu'un que t'aimes bien, qui se fait insulter, c'est comme tu regardes un match de boxe, le boxeur qui perd, tu commences pas à soutenir l'autre, t'as juste hâte à la revanche.
Ouais, de toute façon, c'est deux clans. Je pense que les fans de Louis C.K. allaient rester avec Louis en se disant, ça te tue, il s'est foutu de Dane Cook devant lui, et Dane Cook dans ce stade où il y a 200 millions de personnes, bah, voilà quoi.
Qu'est-ce qu'il s'en fout ?
Il s'en fout complètement. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui aiment ce genre d'humour, il y a son CD qui est réédité, un de ses premiers stand-up, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais...
Bruyant et pas drôle.
Sûrement, mais ça ressort en vinyle, je pense. Donc voilà, parce que ça a 10 ou 20 ans.
Ben, gars, ce qu'on pourra faire la semaine prochaine, on pourra parler de la genèse un peu de comment on écrit un spectacle. Comment
j'avoue qu'on devait le faire et on le fera de toute façon.
Le temps est filé.
Parce que t'as dit que... Enfin, on peut dire que t'as écrit un nouveau spectacle et que...
Rodage en ce moment, et t'es venu le voir.
Et je suis venu le voir, je l'ai vu deux fois et on s'était dit que c'était plutôt intéressant de voir comment ça naît, justement. Et
au moment où c'est vraiment le tout début, voilà.
où tu testes des vannes, où tu jettes, où tu vois les réactions des gens et surtout... Et ça, c'est... Enfin, pour ça, c'est vrai que le Comedy Club, c'est vraiment assez idéal comme situation parce que...
C'est parfait. T'as un public différent chaque soir.
Tu l'as joué trois fois pour l'instant.
Trois fois, ouais. Ça, j'ai travaillé pendant... J'ai écrit pendant longtemps. J'ai vraiment travaillé temps plein dessus pendant quelques mois. J'ai testé tout pendant aussi quelques mois par partie. Mm-hmm. Et là, je teste l'ensemble. Donc, il y a 1h10 de matériel. Et c'est super... Parce que moi, je trouve ça super intéressant. Donc, on pourra
raconter un peu... On va le faire d'office, je veux dire.
Je veux dire, c'est pas, j'ai pas que mon spectacle est intéressant. Je dis que le processus est,
oui,
est
non, c'est ça,
intéressant.
Oui.
Et faire tout un point, ça serait bien comme sujet sur les vols de vannes, les bonnes histoires. J'ai dit Robin Williams, il y en a une terrible à propos de lui.
Ouais, ouais.
Et les cadeaux spéciales fin d'année.
On garde notre petite wishlist de fin d'année.
Donc, ça risque d'être un assez long podcast, surtout qu'on va avoir au moins un invité. Et je répète, ça va être le mardi 10 décembre en direct du Kings of Comedy Club à XL à 18h. info@kocc.be pour réserver.
C'est gratuit
pour nous.
Les gars.
Après ça, il faut vous casser parce qu'à 20h30, on fait rentrer les vrais clients, ceux qui ont payé pour la finale du tournoi Next Prince of Comedy 3e édition que j'aurai l'honneur de présenter. Puis vous, ben, vous la verrez pas. Parce que vous étiez trop lent. Trop lent, trop radin. Voilà.
Et voilà.
Trop tard. Donc, on vient, on boit des verres, puis ça, on se casse. Parlant de gens qui se cassent.
Moi.
Salut, man. Merci à toi.
Retourne chez moi. Ciao.